Galates sans intelligence. Galates insensés. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous aux yeux de qui Jésus pourtant a été décrit comme crucifié. Voilà ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou alors en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir maintenant par vos propres forces. Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins ce n'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Alors, j'ai pas l'habitude de commencer mes prédications de manière aussi sévère et avec des questions aussi violentes. Pourquoi donc je commence comme ça? Alors c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt à l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul commence ce chapitre 3 aux Galates de manière si sévère? C'est pas à Paul qu'il faut poser la question, c'est à l'apôtre Paul. Et si vous avez suivi, nous sommes dans une série de prédications en cours sur l'épître aux Galates, et on en est ce matin à Galates 3 qui commence de manière aussi violente, j'ose dire. Alors pour le contexte, pour le rappel, en fait, l'épître aux Galates, c'est pas une église, c'est un ensemble d'églises en Galatie, dans une partie de la Turquie actuelle. Il y a plein de jeunes églises et qui font face, par contre, à des pressions de personnes pour revenir à la loi, pour revenir à la religion juive, si on pourrait dire. Parce que Jésus-Christ, c'est sympa. Jésus, c'est sympa. Mais la loi, c'est pas mal aussi. Alors, il faut continuer. Circoncision, repas, aliments interdits. J'en suis sûr que Dieu vous aimera plus si vous continuez à obéir à la loi. Alors, l'apôtre Paul, il n'est pas forcément très gentil dans ces cas-là quand on commence à toucher à l'évangile. Baptiste, il y a quelques mois, avait prêché sur Galates 1, et Galates 1 commence avec zéro compliment. Même pas une petite prière de reconnaissance, même pas un petit mot sympathique de bienvenue, de bonne année. Rien. Directement, Galates 1, il n'y a qu'un seul évangile. Galates 2, qu'on avait vu récemment aussi, est-ce que c'est les juifs qui doivent donc être comme les non-juifs? Est-ce que c'est les non-juifs qui doivent être comme les juifs? Non. L'essentiel, c'est d'être en Christ. Être ou ne pas être en Christ, telle est la question. Et vous vous souvenez de ce beau verset qu'on avait vu, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul l'a déjà dit plein de fois, Galates 1, Galates 2, il l'a dit plein de fois, ce n'est pas le respect à la loi qui sauve, mais c'est la loi, c'est la foi. Je me trompe. C'est la foi qui sauve. En l'occurrence, la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Mais comme ça n'a pas l'air d'être tout à fait clair, Paul, il va en remettre une couche. Quand dans ce local, on a repeint les murs il y a quelques mois, quand effectivement, en particulier là-bas où il y avait de l'humidité, quand on voyait encore l'humidité, l'ancienne couleur, qu'est-ce qu'on fait? On en remet une couche. Et là, l'apôtre Paul, il fait la même chose. Le sujet est tellement grave qu'il vaut mieux remettre une couche de plus de peinture. Et l'apôtre Paul va leur montrer que tout ce qu'il est en train de dire, c'est pas nouveau. Il n'est pas en train d'inventer un truc. Que ce principe de la foi qui sauve, c'est pas une invention comme ça qu'il a sorti de son chapeau. Mais que toutes les Écritures en témoignent depuis longtemps. La preuve par l'Écriture. Et on arrive, je vais lire avec vous donc la suite, le passage, donc de 6 à 12, Galates 3, donc 6 à 12. Et écoutez, notez le nombre de fois où Paul va faire référence aux Écritures. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fit compter comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur le principe de la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles ». Et on s'arrête là pour l'instant. Donc vous avez vu le nombre de fois où Paul fait référence à l'Ancien Testament, fait référence, l'Écriture disait ça. Regardez, ce principe de la foi qui sauve, c'est depuis toujours que la foi sauve. Et plus précisément, Paul va leur montrer en quoi la foi d'Abraham était une promesse de bénédiction et en quoi la loi de Moïse était plutôt source de malédiction. Waouh. Bénédiction et malédiction, ce sont nos deux premières parties. Première partie, avant tout, si je dis à mes filles qui sont là, désormais pour le petit-déj, ce qui compte, c'est l'équilibre entre lipides et glucides. Hein? Qu'est-ce qui est panique? Panique à bord, oulala, mais attends, nos céréales, notre Nutella, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que je vais faire pour les rassurer? Je vais leur dire que non, je suis pas en train d'inventer quelque chose, je suis pas en train d'inventer un nouveau truc, je vais prendre le paquet de Nutella, le paquet de céréales, et je vais regarder, tout était écrit. Oui, les lipides, les glucides, tout cela était sous vos yeux, était écrit. Je suis pas en train d'inventer un nouveau concept de nutritionniste. Et là, elles vont dire, ah, c'est bon, on va commencer à avoir encore un peu de Nutella. Voilà, je vais les rassurer en leur montrant que ce que je suis en train de dire, c'était sous leurs yeux, c'est pas nouveau, je suis pas en train d'inventer quelque chose. Et l'apôtre Paul fait de même, non pas pour le Nutella, mais pour la foi dans l'Ancien Testament. Et quoi de mieux que de regarder Abraham? Abraham, c'est le premier des patriarches, le plus grand des patriarches, c'est celui dont on aime se dire de la lignée. Moi, je suis l'arrière, petit-fils d'Abraham. Et ça fait de moi quelqu'un de formidable, vous êtes d'accord? Je suis l'arrière. Voilà, donc, Paul, il va choisir l'exemple même du patriarche par excellence, Abraham. Et Abraham, il a un avantage, en un sens, c'est qu'il est arrivé avant Moïse. Avant que la loi de Moïse soit donnée. Avant même que les 10 commandements ne soient connus. Avant même que la circoncision ait été évoquée. À ce moment-là, quand Abraham croit, à ce moment-là, il n'y a ni loi, ni Moïse, ni 10 commandements, ni circoncision. Abraham crut, et cela lui fut compté à justice. Et vous en souvenez pourquoi il a cru? C'était sous les étoiles. Alors nous, on n'en a pas beaucoup, là, on n'en a qu'une vingtaine d'étoiles sur les murs. Mais Abraham regardait les étoiles, et Dieu lui a dit, ta descendance sera aussi nombreuse. Sa femme était âgée, pas d'enfant, et à ce moment-là, il a cru. Pendant les vacances à Lyon, on est allé au planétarium de Lyon, et c'est cette espèce de fauteuil, là, un fauteuil de cinéma, t'es tourné vers le haut, et t'as un projecteur à 360 degrés, et là, il montre, waouh, les milliards d'étoiles. La résolution du vidéoprojecteur est évidemment pas suffisante, mais on se sent. Et j'imagine Abraham, à ce moment-là, sous une belle nuit étoilée en Israël, qui a vu et qui a cru alors que sa femme était âgée, et qu'ils n'avaient pas d'enfants depuis longtemps. Abraham, il a cru à un moment où il n'y avait ni la loi, ni les commandements, ni la circoncision, ni quoi que ce soit. Il fit preuve de foi, et à travers sa descendance, Dieu lui dit même, c'est pas seulement toi, mais c'est ta descendance qui sera bénie. L'ensemble des nations seront bénies. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des descendants d'Abraham, des descendants directs d'Abraham partout dans le monde? Pas forcément, hein. Je pense que si on avait la généalogie de tout le monde, il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de descendants directs d'Abraham. Par contre, il y a dans le monde partout des personnes qui font preuve de foi, comme Abraham l'a fait. Il y a des personnes comme ça, il y en a en Israël, il y en a en Syrie, il y en a en Galatie, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, il y en a en Asie, et il y en a même à Cavaillon. Pour dire, toutes les nations seront bénies en toi. L'apôtre Paul n'a rien inventé. La foi d'Abraham était une promesse de bénédiction pour tous. Cela a été annoncé dès le début, dès les premiers chapitres de l'Ancien Testament. Et si les chrétiens de Galatie avaient voulu prendre exemple sur un personnage de l'Ancien Testament, ça aurait été bien qu'ils choisissent Abraham. Ça aurait été bien qu'ils choisissent Abraham pour faire comme lui, pour avoir la même foi que lui. Mais finalement, les chrétiens de Galatie, ils ont plutôt choisi Moïse comme modèle. Ou plutôt, la loi de Moïse. Et c'est notre seconde partie. La loi de Moïse. Parce que dans l'Ancien Testament, effectivement, si vous parcourez, vous lisez Abraham, là, Genèse, et puis après vous arrivez sur Exode, sur Lévitique, sur Nombre, sur Deutéronome, et livre dans lequel la loi d'Israël, la loi de Moïse, est omniprésente, elle est donnée comme cadre de vie sociale, rituelle et morale. Et la loi de Moïse, elle est omniprésente, effectivement, dans le début. Est-ce que cette loi était bonne à suivre? Oui. Est-ce qu'il y a du bon à respecter ces commandements? Mille fois oui, répond même Paul en Romains 7. Cependant, est-ce que cette loi est source de bénédiction? Comme la foi d'Abraham. Paradoxalement, dit Paul ici, la loi de Moïse, et c'est là que c'est un peu choquant, la loi de Moïse, les commandements sont plutôt une source de malédiction. En effet, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et le met en pratique. Ah zut, la loi est une bonne chose, mais maudit celui qui n'arrive pas parfaitement à la mettre en pratique. Ah, ça change un petit peu la donne. Et je vais vous donner une illustration avec cette magnifique photo de El Capitan. El Capitan, c'est le nom de cette montagne. Donc c'est dans le parc national du Yosemite et c'est une des falaises les plus connues. C'est en Californie, aux États-Unis, et c'est magnifique. Vous avez vu cette falaise? Et là, il y a des... Et ici, là, en partant de là à là, il y a 914 mètres d'escalade à faire pour celui qui veut monter là-haut. Imaginez ça. Alors moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la nature, j'aime bien l'extérieur. Alors j'imagine là, la vue, les sensations, les paysages, la joie d'arriver au sommet. J'imagine tout ça et waouh, c'est une bonne chose à faire. C'est une bonne chose à faire. Sauf qu'il y a 914 mètres d'escalade à faire et qu'il faut le faire comme un certain Alex Honnold. C'est un Américain. Et il a fait l'exploit fou, il y a quelques années, de faire cette ascension sans corde, sans escalade, sans boudrier, sans rien. Qui est volontaire pour faire comme lui? Tu serais volontaire pour tenter de faire comme lui? C'était un matin de 2019. Un matin de 2019, plus de 4-5 heures d'escalade. Près de 4-5 heures d'escalade avec 0-0-0 le droit à l'erreur. Il a fait un film, je suis devant l'écran, j'ai le pouls qui fait comme ça, alors bon, je sais qu'il a réussi au bout, mais c'est de la folie. Pourtant, il avait une vue magnifique, pourtant c'est une bonne chose qu'il faisait, mais imaginez, la moindre erreur, la moindre glissade, le moindre rocher qui se casse, c'est fini. Pour paraphraser notre texte du jour, maudit soit tout homme dont le pied glisse, si ce n'est une seconde. Voilà comment une chose magnifique, El Capitan, peut se transformer paradoxalement en une source de malédiction pour toute personne qui n'arriverait pas à faire comme Alex Honnold. Ça serait une folie, pour moi, pour vous, même pour lui c'était de la folie, je ne sais pas comment il a fait, ça serait une folie de s'engager dans cette voie, sans assurance, sans escalade, même si la vue va être belle en haut. Ça serait une folie de faire ça, non pas 4 heures, mais toute une vie. Qui pourrait survivre? Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, au début du chapitre 3 de Galates, il est si sévère envers la folie de ces Galates qui pensent qu'ils vont pouvoir être bénis par Dieu en essayant de respecter la loi et de la continuer à essayer de gagner la faveur de Dieu par leur obéissance. Voilà pourquoi Paul dit, mais vous êtes fous! Tout comme moi, si je le croise en train de commencer à monter, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou. La foi d'Abraham était une promesse de bénédiction, mais la loi de Moïse s'avère être plutôt une source paradoxalement de malédiction dans le sens où elle va être impossible à respecter parfaitement. Et ça serait une folie, chers amis, ça serait une folie de vouloir gagner la faveur de Dieu ou conserver la faveur de Dieu avec vos disciplines, avec nos disciplines, avec nos vies bien rangées, avec nos bonnes œuvres, avec nos gentillesses, avec nos bonnes résolutions de janvier qui font de nous des personnes formidables, n'est-ce pas? À travers nos dons et nos actes de générosité. Regarde, Seigneur, comme je suis généreux. Si vous pensez conserver la faveur de Dieu en étant des petits chrétiens bien gentils, bien rangés, si vous pensez que Dieu va plus vous aimer là-dessus, alors c'est une bonne chose de le faire. Tout comme c'est une bonne chose. Mais maudit celui qui n'y arrive pas parfaitement. Voilà ce que nous dit Galates 3. Voilà ce que dit l'Ancien Testament. Maudit celui dont le pied va glisser, si ce n'est qu'une seule fois. Alors vous trouvez peut-être ça un peu sévère. Une seule fois, ça va. Toute ma vie, il y a une fois où j'ai le pied qui a glissé, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est logique. Imaginez que Alex Honnold ait glissé une fois. Mort. Imaginez que vous décidiez de respecter que 99% des feux rouges dans la circulation. Désormais, on va respecter que 99% des feux rouges. Qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, 1% de feux rouges grillés, c'est potentiellement déjà trop. Imaginez que vous n'acceptiez de payer vos impôts que 9 années sur 10. C'est pas mal, 9 sur 10. Vous pensez que le fisc, il va dire quoi? Ah, c'est pas mal, hein. Vous comprenez cette idée qu'une fois, c'est déjà trop? Dites à votre conjoint, une seule fois, dites à votre conjoint, je ne t'aime pas. Dites-le qu'une seule fois, c'est pas grand-chose une seule fois. À votre avis, c'est quoi les conséquences? Mais c'est vrai, en fait, quand on se projette dans nos relations humaines, on comprend bien qu'une relation peut être gâchée par une seule fois. Essayez de tromper votre conjoint une seule fois. Essayez. Vous allez une seule fois, c'est déjà trop. Évidemment. Et avec Dieu, c'est pareil, en fait. Dieu, il est pas inutilement sévère, mais c'est logique qu'une seule fois, ça soit déjà trop. Dieu est parfait, il ne peut se résoudre à tolérer, à fermer les yeux sur notre péché, sur toutes les fois où sa loi morale parfaite est transgressée. Vous l'avez peut-être lu cette semaine avec notre plan de lecture dans Matthieu. Matthieu 5, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Qu'est-ce qu'on fait donc? Là, on est face à un dilemme, hein. On est coincé. Et en même temps, on est dans une impasse. Il y a une promesse de bénédiction qui a été donnée, mais on est maudit et la loi, c'est inatteignable. Que faire? Est-ce qu'on est condamné à rester bêtement en bas de la falaise et à jamais voir la vue? Est-ce qu'on est condamné à rester bloqué? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Là, on est sur un casse-tête insolvable. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Bénédiction ou malédiction? Casse-tête, impossible à résoudre. La réponse se trouve dans notre troisième partie. La réponse se trouve dans notre troisième partie, avec les versets 13 à 14 qui sont la pièce de puzzle qui vient résoudre notre casse-tête. Parce que sinon, si on ne lit pas les versets 13 et 14, on s'arrête là, hein. On est condamné à rester bêtement. On est condamné dans ces cas-là soit à rester en bas, à rien faire, soit à essayer de monter, à mourir. Super, là. C'est super, les deux options. Heureusement, il en existe une troisième, et c'est les versets 13 à 14 qui viennent résoudre l'impasse dans lequel on est. Versets 13 à 14. Écoutez ça. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Waouh ! Oh, le pulse vient de se... On était dans une impasse, on était complètement coincé. Et on peut être habitué à ce genre de verset qu'on dit dimanche après dimanche, on peut abaisser. Mais est-ce qu'on réalise... Ah, rien que dit pour eux. Est-ce qu'on réalise à quel point c'est extraordinaire ? Pour que l'on puisse saisir par la foi la bénédiction promise dès Abraham, pour qu'on ne soit pas maudit par cette loi qui était inatteignable pour nous, Christ nous a rachetés, a payé pour nous. Est-ce qu'on réalise ici ? On est sur le vocabulaire racheté, payé, on est sur le vocabulaire du marché, on est sur le vocabulaire des sous. Le marché, là où certains esclaves étaient rachetés, libérés, si quelqu'un acceptait de payer la rançon pour qu'il soit libéré. Et c'est pour ça qu'on utilise des fois le mot « rédemption ». Des fois, vous avez entendu peut-être à l'église le mot « rédemption », c'est exactement ça. C'est un esclave qui est racheté, qui est libéré, qui veut dire « rachat ». Et le prix, la rançon qui a été payée, elle se compte ni en euros, ni en sesterces, ni en bitcoin. Elle se dit, c'est Jésus-Christ lui-même, de sa vie, de sa mort, qui a accepté, vous avez vu verset 13, il a accepté de devenir, verset 13, malédiction pour nous, péché pour nous dans d'autres versions. Est-ce que le Créateur a accepté de devenir non seulement créature, mais plus que ça, péché, malédiction, celui qui a horreur. Celui qui est le Dieu trois fois saint, le Dieu qui a horreur du péché, a décidé de devenir péché. Est-ce qu'on réalise en fait la grandeur de ce que ça veut dire? Et d'un point de vue pour les amateurs de théologie, on parle ici de substitution. On parle de substitution de Christ qui devient notre substitut, celui qui prend notre place, celui qui devient malédiction à notre place. On parle ici de substitution. Promis, c'est le dernier terme théologique que j'ai dit. Je vais vous donner une illustration avec un roi viking. Et j'ai besoin d'un nom pour mon roi viking. Dites-moi les enfants, c'était sur leur question. Comment il s'appelle le roi viking ?
Grosse baffe.
Grosse baffe, ok. Ça sonne pas très viking. Une autre proposition ?
C'est dans Astérix.
C'est
Astérix ?
Ragnar. Voilà, c'est les allusions. Allez, bah va pour Ragnar ou Ragnar ? J'entends rien, excuse-moi.
Ragnar.
C'est le roi Ragnar, le roi viking Ragnar, merci, qui est c'est en cœur de l'hiver, au fin fond de la Norvège, de la Scandinavie là-haut, et c'est la famine complète dans un village. Et donc, même les petits fiens n'ont plus rien à manger. Et le roi Ragnar, il a dit une loi, parce qu'ils ont fait une grande provision dans un hangar, ils ont mis tout ce qu'il y avait à manger, les provisions, et c'est rationné, pour tenir jusqu'au printemps prochain. Et le roi Ragnar a dit, maudit celui qui ira voler dans les réserves officielles. Et c'est rationné et compagnie. Et un beau jour, on découvre que de la nourriture a été volée. Ragnar découvre que de la nourriture a été volée. Alors, branle-bas de combat, l'enquête est menée, et devinez, qui est la personne qui a volé? En l'occurrence, dans mon histoire, c'était la maman. Sa maman à lui. Oui, mais c'est les mamans, souvent. Pas attention que ce soit que les fils, hein, aussi les mamans, des fois. Bref, peu importe. Son fils, sa fille, sa maman, c'est... Imaginez l'impasse dans lequel est bloqué Ragnar. Il a dit... Maudit soit celui qui prend de la nourriture. Et voilà-t-il pas que c'est sa maman, son fils, son enfant, qui a fauté. Qu'est-ce que fait ce roi viking? Il avait dit, donc maudit, voilà, il sera flagellé sur la place publique ou je sais quelque chose comme ça. Et le jour où la sanction doit être tombée, Sa maman est au milieu de la salle. Dans la salle, il y a tous les Vikings. Là, vous les imaginez, comme ça, là, hop. Et au moment où le bourreau s'avance vers sa maman, le roi Ragnar arrive et se pose sur lui, sur elle, l'enveloppe. Et c'est lui, de par son propre corps, qui va s'intercaler, qui va devenir coupable, qui va devenir celui qui est maudit par la communauté. Et c'est le roi Ragnar lui-même, pour respecter sa parole et, mais en même temps, il aime sa mère, qui va décider de devenir lui-même la personne fautive, qui va devenir péché, qui va devenir malédiction. Et ce roi Ragnar va se prendre lui-même la punition de, et alors en l'occurrence la mort ou pas, bon, vous inventez l'histoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et devant notre péché, devant notre incapacité à suivre les ordonnances de Dieu, c'est exactement ce que Dieu a fait. Christ, il a fait bien mieux que Ragnar, puisqu'il est allé jusqu'à la mort à notre place. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Si vous retenez ça, il a été maudit pour que nous soyons bénis. Verset 14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous pouvons recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ainsi, bénis celui qui met sa foi dans celui qui a été maudit. Je répète, et c'est ma phrase principale, bénis celui qui met sa foi dans celui qui a été maudit. Il a été maudit pour que nous soyons bénis alors que nous aurions dû être maudits. Vous avez compris ? Béni soit celui qui met sa foi dans celui qui a été maudit. Voilà donc l'évangile que les Galates avaient déjà commencé à oublier. Voilà l'évangile que les Galates avaient déjà commencé à oublier. Et voici l'évangile aussi que bon nombre de nos contemporains ignorent complètement. Croyant que les chrétiens sont seulement des gens avec des vies quasi nickel, qui se portent bien et que Dieu aime parce qu'ils sont un peu meilleurs que la moyenne. Faites un sondage dans la rue. Faites un sondage auprès de vos voisins, auprès de vos collègues, auprès de vos amis. Demandez-leur de résumer, si ce n'est en une phrase, le sens de l'évangile. Je pense qu'on prendrait peur. Je pense qu'on prendrait peur. Il est très probable qu'on retrouve ce que Paul vient de rappeler aux Galates. Béni soit celui qui met sa foi dans celui qui a été maudit. Cette semaine, j'ai discuté au travail avec des collègues un peu de la foi, de la religion, et je leur ai expliqué le sens de l'épiphanie, les mages qui viennent de... J'ai été surpris. Aucun ne savait. Ils étaient perdus. Ah bon, les rois mages, qu'est-ce que c'est? Ah bon, c'est dans la Bible, mais qu'est-ce qui vient de voir Jésus? Rien. Donc même ça, on parle pas du sens de l'évangile, hein. On parle du béaba. Et dans 20 ans, il faudra expliquer Jésus dans la crèche, quoi. Les Galates avaient commencé déjà à oublier l'évangile, et notre société a complètement oublié ce que c'est vraiment l'évangile. Alors soyons fiers. Soyons fiers de cet évangile, faisons-le connaître, mais soyons vigilants et ne tombons pas dans les mêmes pièges que le Galate qui avait déjà commencé à ajouter ou retirer certaines choses à ce beau évangile. Il existe, ce sera mon dernier mot, il existe malheureusement d'autres pièges dans lesquels on peut tomber année après année. Alors peut-être que vous n'êtes pas comme les Galates, et que votre compréhension de l'évangile, elle est restée juste droite, nickel, et que vous n'avez pas rien rajouté, rien retiré, et que votre théologie est nickel. Peut-être que c'est votre cas, et tant mieux. Mais année après année, il y a d'autres choses qu'on peut perdre dans notre foi. Peut-être avez-vous perdu la flamme qui était la vôtre quand vous étiez jeune chrétien. Peut-être avez-vous perdu la fougue qui était la vôtre, la vie de prière, la consécration, la fierté que vous aviez en tant que jeune chrétien. Ça aussi, année après année, c'est possible de le perdre. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par vos propres forces ou voulez-vous finir sans force? On pourrait paraphraser l'apôtre Paul. Alors, chers amis, jour après jour, mois après mois, année après année, nouvelle année après nouvelle année, restons fidèles à Dieu. Et restons fidèles à l'évangile et à ce que cet évangile a déjà produit en nous. La flamme, la foi, la consécration, la fierté, la fougue et le service. Ne perdons pas ça. Et ne perdons pas non plus tout ce que contient le fruit de l'esprit. Mais ça, j'en dis pas plus, c'est un autre sujet. Et il faut en garder un petit peu pour quand on arrivera à Galates 5 plus tard dans notre série. En attendant, chers amis, et pour cette nouvelle année, soyez bénis, vous qui avez placé votre foi dans celui qui a été maudit. Soyez bénis, vous qui avez placé votre foi dans celui qui a été maudit. Amen. Et je vous invite à la prière. Éternel, tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu trois fois saint, tu es un Dieu qui avait promis dès le tout début de bénir les nations, de bénir les nations, de bénir tous ceux, Seigneur, qui auraient foi en toi. Seigneur, tu as ensuite envoyé Moïse et cette loi pour nous obliger à plier le genou et à reconnaître notre incapacité à la suivre parfaitement, à être à la hauteur de tes exigences. Seigneur, et qu'il serait fou de vouloir prétendre conserver ou garder ton approbation en étant des petits chrétiens parfaits qui respecteraient 100%. Quelle folie ça serait. Seigneur, préserve-nous de ce piège. Mais face à cela, merci parce que tu as accepté de devenir en Jésus-Christ, tu as accepté de devenir péché, tu as accepté de devenir malédiction, tu as accepté de devenir toi-même ce que tu avais le plus en horreur. Le péché, afin que nous puissions être bénis et que nous puissions saisir par la foi cette la promesse de bénédiction que tu avais donnée à Abraham. Que cet évangile est beau, Seigneur. Nous en sommes au bénéfice. C'est magnifique. Donne-nous, s'il te plaît, de jamais nous en lasser. Donne-nous de ne jamais considérer ça comme acquis, comme évident, comme banal. Rends-nous en fiers, rends-nous attachés à cela. Et que cet évangile continue de transformer nos vies jour après jour. De nous apporter la foi, la vie, la consécration, la prière, la fougue, tout Seigneur, qui peut nous caractériser. Seigneur, sois béni. Sois béni, toi qui as accepté d'être maudit, pour que nous soyons bénis. Amen.